Nous arrivons maintenant à un temps où on donne l'attention à la parole de Dieu. Nous venons de chanter Divine Parole et ça résume bien ce que les chrétiens pensent. Que la Bible est plus qu'un livre ancien avec un peu de sagesse, mais elle est en fait la parole de Dieu. Et si la Bible est vraiment la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et donc, on a besoin et même on est exigé de donner notre attention à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui parle et si c'est Dieu qui parle, ce qu'il dit vaut la peine pour comprendre. Nous sommes maintenant quelques semaines dans notre étude de la lettre à Tite. Donc ça se trouve dans le Nouveau Testament, d'accord? On a, dans le Nouveau Testament, on commence par quatre évangiles qui parlent de la vie et le ministère de Jésus sur la terre. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Après, on a les actes des apôtres de Jésus-Christ. C'est l'histoire de comment l'Église a commencé, mais aussi elle a bien répandu pendant tout l'Empire romain. Et après, on a les lettres de Paul, d'accord, qui a écrit 13 lettres qui se trouvent dans notre Nouveau Testament. Et Tite, c'est l'un des épîtres qui sont souvent appelés à croire. C'est une épître, lettre pastorale. C'est-à-dire, c'est pour les pasteurs. Mais moi, je ne suis pas très d'accord avec cette idée. Je pense que, en fait, c'est une lettre pour l'Église. Et on a résumé le message de la lettre en 4 lignes. Est-ce que vous vous rappelez de ces 4 lignes? Sinon, ils sont derrière vous. D'accord? Le Seigneur glorifié par une église sanctifiée au travers des pasteurs désignés pour une communauté évangélisée. Et les 4 idées qui sont primordiales sont la glorification de Dieu, la sanctification de son église, désignation de ses pasteurs anciens et l'évangélisation d'une société autour d'eux. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à Tite, le premier chapitre et les versets 5 à 9 et on va les lire ensemble maintenant. Je vais les projeter sur le mur, ces mots. Après être présenté, Paul dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc, ça c'est notre passage pour cette semaine, la semaine après et la semaine après ça. Donc, on va considérer ces versets pendant 3 semaines. Aujourd'hui, on va donner notre temps à 3 points principaux. L'appel à être une église en ordre, le moyen pour être une église en ordre et la nature d'une église en ordre ordonné. Ça, c'est nos 3 points. L'appel, le moyen et la nature. D'abord, on a un appel dans ces versets. Il faut que ces églises soient quoi? En ordre, parce qu'il dit, je t'ai laissé en Crète pour mettre en ordre les églises. Mais c'est quoi une église? Et je pense qu'il faut commencer avec une bonne compréhension de ce que c'est une église. D'accord? Souvent, on se trompe avec même cette idée très fondamentale. Une église n'est pas une association culturelle. D'accord? L'église n'est pas une assemblée de personnes qui partagent une passion pour un loisir. Une église n'est même pas une association des personnes cherchant leur propre épanouissement spirituel. Ça, ce n'est pas une église. Une église est un groupe de personnes liées par la foi au Christ qui s'engagent autour d'une confession partagée, à faire partie d'une communauté qui loue le Seigneur, s'édifie les uns les autres et évangélise ceux qui sont perdus. D'accord? Ça, c'est une église. C'est plus qu'une association culturelle comme ceux qui font le jogging ensemble, parce qu'ils partagent leur passion. On est d'un groupe de personnes autour d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ et qui nous a sauvés. Ça, c'est une église. Mais c'est quoi une église qui est en ordre? D'accord? Ça, c'est une question que j'ai devant mes yeux pendant toute la semaine. Comment on peut être en ordre en tant qu'une église? Si on veut comprendre ce qu'est l'ordre, il faut donner l'attention au texte. Nous devons établir la signification du mot ordre dans le verset, et dans presque toutes les traductions françaises du verset 5, nous lisons que Tite a été laissé en Crète pour mettre les églises en ordre, mais cela veut dire quoi? Tite est-il y allé pour organiser la cuisine ou le garage? Il faut être en ordre, il faut organiser la cuisine et le bureau. Non, je pense pas. Les mots que Paul utilise au verset 5 nous aident à comprendre la mission de Timothée, d'accord? Nous allons considérer maintenant les mots afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. D'accord? Ce sont les mots qui viennent du texte. Considérons premièrement les mots « mettre en ordre ». Okay, le verbe grec qui est utilisé ici est rarement trouvé dans la littérature grecque existante. D'accord? En fait, on n'en a pas qu'ici en Tite. Mais il y a un mot qui partage la même racine qu'on trouve dans deux passages dans le Nouveau Testament. Et le premier passage, c'est en Actes 24, 2. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Et le même qui partage la même racine est traduit ici par le mot réforme. D'accord? Ça nous aide un peu à comprendre peut-être ce que Paul veut dire. Il y a un autre passage qui vient en hébreu, qui apparaît en hébreu 9-10. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de quoi? De réformation. Encore une fois, ça c'est notre mot, là. Qui partage la même racine. Donc, dans ces deux passages, un mot qui partage la même racine est traduit réforme et réformation. Donc, est-ce que ça nous aide à conclure peut-être quelque chose que Paul veut dire. Prenons cette partie de l'instruction de Paul. Paul nous dit que Tite est en Crète pour réformer les églises. Cela veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? On ne réforme pas les choses qui sont bonnes et qui marchent bien. Mais il y a une autre partie de ce qu'il a dit. Il dit aussi, mais nous devons aussi, ce qui reste à régler. Et le mot utilisé ici communique l'idée de compléter une œuvre qui n'a été jamais entièrement terminée. Cela suggère que Paul a dû quitter la Crète avant de terminer l'implantation de ses églises. Et ces deux parties ensemble communiquent qu'il y avait certaines choses dans ces églises qui avaient besoin d'être réformées et qu'il y avait d'autres choses qui n'avaient été jamais achevées. Quelle est l'implication pour nous, hein? D'accord? Parce que on n'étudie pas la Bible seulement pour savoir ce qui s'est passé, on veut savoir ce qui doit passer dans le présent. Pour moi, ce n'est pas trop difficile à trouver une application. En examinant notre Église, en examinant nous-mêmes, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être réformées ou des choses qu'on doit établir pour être en ordre? Ça, c'est une question importante pour nous. Et sauf si nous sommes la seule Église parfaite qui n'ait jamais existé, nous devons répondre avec un grand croix. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des choses à réformer et à établir avant que nous puissions dire que cette Église est en ordre. Donc, on est une Église qui est toujours en réforme. Ça doit être notre nature en tant qu'une Église. On ne peut jamais dire, d'accord, enfin, on est arrivé, on est parfait, voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on va devenir une Église en ordre. Donc, pour résumer, Paul dit qu'une Église en ordre est une Église réformée et achevée. Mais comment cette réforme et cet achèvement s'accompliront-elles? Dans les versets 5 à 9, nous découvrons la manière par laquelle Dieu veut accomplir ces deux choses dans la vie d'une Église. Donc, l'appel, c'est d'être réformé et achevé. Et quel est maintenant le moyen? Le moyen, comment être une Église en ordre? D'abord, notons la structure du verset 5. Donc, nous allons considérer la version Sommaire, qui suit un peu plus près l'ordre du grec que la version la nouvelle édition Genève. D'abord, on a l'envoi. Je t'ai laissé en Crète. Deuxièmement, on a la mission pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et qui tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église, et après l'instruction, la mention de l'instruction, en suivant les directives que je t'ai données. Donc, j'ai déjà dit ce que tu dois faire. Ça, c'est un peu la structure du verset 5. Mais ensuite, nous notons que Paul, quand il donne la mission, il a raison pour la mission de Tite, met deux choses ensemble par le mot « et », n'est-ce pas? Le mot « et », et ça soulève une question. Est-ce qu'il y a deux missions, ou est-ce qu'il y a une mission et un moyen? On doit faire l'interprétation ici pour savoir ce qu'il veut dire. Il dit pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église. La question pour nous, ce sont ces deux questions. Souvent, nous, avec le mot « et », nous voulons parler de deux choses différentes qui ne sont pas liés. Par exemple, nous disons qu'on a pris un croissant et un café pour le petit déjeuner. Selon cette pratique, Paul veut dire que Tite a deux missions, mettre les choses en ordre et établir les anciens. Ce sont ces deux missions. Mais parfois, le mot « et » ne signifie pas deux choses différentes mises ensemble. Il peut aussi communiquer une seule chose exprimée en deux parties. Par exemple, si je dis à mes enfants « rangez vos affaires et mettez les jouets dans les rangements », cela veut dire quoi? Est-ce qu'il y a deux choses différentes à faire ou est-ce qu'il y a une seule chose à faire? Dans cette phrase, la deuxième partie explique la première partie. Comment les enfants peuvent-ils ranger leurs affaires en mettant leurs jouets dans les rangements? D'accord? Et selon cette structure, Paul veut dire que Tite a une seule mission, mettant les choses en ordre, qu'il accomplira par un certain moyen, la désignation des anciens. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas trop compliqué, mais souvent on prend pas le temps pour réfléchir et voir ce que dit le texte. Il même. Donc, certains experts pensent que Paul donne deux missions. D'autres experts pensent que Paul donne une mission avec le moyen d'accomplissement. Et moi, je pense que Paul donne une seule mission avec le moyen pour l'accomplir. Et pourquoi? C'est le verset 9 qui m'a amené à cette conclusion. D'accord? Là, Paul dit que l'ancien, le surveillant, doit être vraiment ancré dans la doctrine du Seigneur pour faire deux choses. Encourager, exhorter et réfuter. Le reste de la lettre explique comment ces deux choses doivent être pratiquées dans la vie d'une église. Mettre en ordre est égal à la transformation d'une église, mais comment? Comment une église peut être transformée? C'est par le ministère des anciens qui encouragent les croyants et qui réfutent la fausse doctrine. D'accord? On a, selon mon interprétation, on a ici une seule mission, c'est mettre les choses en ordre. Mais comment? Par le moyen des anciens. Donc, mais qui sont ces anciens? Qui sont... comment définir, comment comprendre le moyen. Donc, on va commencer, d'accord, avec le moyen. On va noter tout de suite que le moyen, c'est humain. Peut-être vous pensez, Mika, ça c'est un peu bête. Mais qu'est-ce qu'on attend souvent? On veut avoir une vision, on veut avoir un ange qui nous visite pour nous éclaircir, hein. Mais ce que Dieu dit, c'est une église qui doit être mise en ordre. C'est une église qui doit être mise en ordre par le moyen d'un être humain. D'accord? On n'attend pas la visitation d'un ange, une vision. Ensuite, on voit dans ce passage qu'il y a deux titres donnés à ce moyen. Il les appelle les anciens et l'évêque, le surveillant. On peut le traduire surveillant. Donc, on va considérer ces deux titres. Au verset 5, Paul dit, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Paul, dans ses lettres, utilise le titre ancien très souvent, d'accord? C'est un titre pris des synagogues juives, où les dirigeants étaient appelés les anciens. Et bien sûr, au début, le titre a été utilisé parce que les dirigeants d'une ville ou d'une synagogue étaient normalement qui? C'était les jeunes ou les personnes plus âgées? Normalement, c'était les personnes plus âgées. C'est assez récent qu'on met beaucoup d'accent sur les jeunes. Et que les jeunes dirigent soit nos pays, soit nos églises. En fait, à cette époque-là, c'était presque, c'était la présupposition. Un dirigeant, c'était quelqu'un qui avait un certain âge. Et pourquoi? Nous, peut-être vous, quand vous pensez à quelqu'un qui est vraiment sage, et vous voulez avoir de la sagesse, vous allez parler avec qui? Si vous êtes à l'école, vous parlez avec les copains, les copines. Qu'en pensez-vous, hein? Vous allez à qui? Quelqu'un qui est plus âgé. Les enfants, souvent, ils vont à leurs parents. Si vous êtes en train de poursuivre un métier, vous allez parler avec vos professeurs, ceux qui ont de l'expérience. Si vous êtes déjà dans un métier et vous avez besoin de conseils, vous demandez à qui? Quelqu'un qui est arrivé avec vous le même jour ou quelqu'un qui a déjà passé 20 ans dans le métier? Souvent, on parle à ceux qui sont plus âgés parce qu'ils ont de l'expérience et la sagesse. Et ça, c'est l'implication originelle de ce mot ancien. Mais avec les années, le terme ancien ne portait pas forcément l'idée de l'âge. Il est devenu un titre officiel des dirigeants d'une église. Et on le sait, d'accord? On le sait parce que Paul doit dire à Timothée, qui était un ancien d'une église, que personne ne méprise ta jeunesse. Et on ne veut pas se tromper en disant toutes les personnes qui ont un certain âge sont sages et tous les jeunes ne sont pas sages. Parce que ce n'est pas vrai. On peut trouver la sagesse chez les jeunes et on peut trouver un manque de sagesse chez les âgés. Mais ce que le terme indique maintenant, c'est un dirigeant avec un certain niveau de sagesse qui peut diriger l'Église. Donc, et ailleurs, il dit qu'un ancien ne peut pas être un novice, quelqu'un qui est nouveau dans l'Église. Mais au verset 7, nous trouvons un titre différent, d'accord? Et le titre, c'est évêque, qui signifie un surveillant. Et ce titre parle d'un quelqu'un qui est responsable de gérer quelque chose. Dans ce contexte, c'est un homme qui doit gérer une église, et notons pourtant que Paul précise que ce surveillant est un économe de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il surveille sur les biens de Dieu et pas de lui-même. Ici, cela parle des enfants de Dieu, de l'Église, du Christ. Donc, on a deux titres, anciens, un leader, quoi, et un surveillant, un évêque, qui est un dirigeant. Est-ce qu'on a donc deux moyens pour arriver à avoir une Église qui est en ordre? Moi, je pense pas, et on va regarder un passage qui parle de Paul aussi. On va sauter quelques versets, mais Paul envoya chercher à Éphèse qui? Les anciens. D'accord? On a déjà vu ce titre. Il les appelle pour venir afin qu'ils puissent leur parler. Mais plus tard, quand il veut, il continue à parler avec eux, plus tard, il les donne un autre titre, et le titre c'est ici, le verset 28, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, quoi? » Évêque. Il parle à qui? Les anciens. Et il a dit que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, ce qu'on a ici n'est pas deux moyens, c'est un seul moyen humain avec deux titres. C'est un ancien et c'est un évêque. Et pourquoi? Parce que d'être un évêque, d'être un ancien, c'est plutôt une fonction. Ce n'est pas un poste. Il parle plutôt de ce qu'on fait, pas de ce qu'on est ici. Voilà, ça c'est l'ordre. On a un appel, c'est quoi? Être une église en ordre. On a un moyen, c'est quoi? C'est l'ancien, l'évêque, un moyen humain. Et la troisième chose, c'est quoi une église en ordre? Est-ce que c'est une église qui marche comme Fnac, Carrefour, bien organisé, hein? Chacun a ses choses à faire, chacun fait ses choses. Est-ce que ça, ce qui signifie être en ordre? Donc, on va regarder Tite chapitre 1, le verset 9. Les anciens, l'évêque, doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exercer selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, on va considérer leurs activités, leurs fondements et leur puissance sur leur efficacité. D'accord? D'abord, quels sont les activités d'un ancien, des anciens, des évêques? Bon, il dit d'abord, ils sont capables d'exhorter. Cela veut dire quoi? Exhorter. C'est le mot grec, parakaleo, et ça peut communiquer au moins quatre sens. Hein? D'accord, on va les regarder très rapidement. La première chose qu'on va voir, que c'est parakaleo, peut signifier donner l'aide, donner secours. Par exemple, en 2 Corinthiens 12, le verset 8, Paul écrit, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et le mot « prier » ici est en fait le mot grec traduit « exhorter » ou « encourager » en titre. L'idée ici, c'est quoi? De demander secours de quelqu'un. Et la personne qui répond à cette demande, parakaleo, est appelée un paraclète. Vous voyez entre les deux, parakaleo et paraclète. Ils partagent la même racine. Et donc, on peut dire que le mot porte l'idée d'être une aide à quelqu'un. Donc, un évêque qui exhorte, c'est un évêque, un ancien qui donne l'aide. Ça, c'est son appel. Mais il y a aussi une autre signification en 1 Corinthiens 4, 16. Et là, il dit, « Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. » Dans ce verset, le mot grec est traduit par le mot « conjurer ». Et dans cet usage, nous voyons l'aspect d'insistance. D'encourager ou d'exhorter quelqu'un peut être d'insister sur une action, une attitude. Donc, il faut insister sur certaines choses. Ça fait partie de leur ministère pour mettre les choses en ordre. Une troisième signification est trouvée en Philémon 8 et 9. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Ici, les mots « je t'adresse une prière » traduisent le mot « parakaleo », et l'idée derrière cet usage, c'est de supplier ou d'implorer quelqu'un de faire quelque chose. Donc, parfois c'est donner l'aide, parfois c'est insister sur quelque chose, parfois c'est supplier une action, implorer quelqu'un, et finalement nous trouvons dans Éphésiens 6, 22, cette signification. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Et ici le mot est traduit consoler. Hein? C'est par que la hausse est de consoler quelqu'un. Donc, on a quatre sens un peu différents. On donne l'aide. On insiste sur quelque chose. On supplie une action ou on console quelqu'un. Ça, c'est ce qu'il veut dire par le mot exhorter. Et par ce passage, nous voyons que le verbe encourager en titre peut communiquer plusieurs activités. Toutes ces activités supposent quoi? Une grande implication des anciens dans la vie de chaque membre de l'Église. Comment un ancien peut t'aider s'il n'est pas impliqué dans ta vie, votre vie, hein? Ça c'est logique. Comment il peut vous consoler s'il n'est pas impliqué dans votre vie? C'est pas possible. Il y a une grande implication dans la vie. Les anciens sont appelés à guider les membres d'une église sur le bon chemin de Jésus-Christ. Et ça soulève une question. Sommes-nous en tant qu'une église prêts à accepter l'implication des anciens dans nos vies pour nous aider et pour nous consoler? Ouais, ça semble être très bien, hein? Qui ne veut pas avoir la consolation? Qui ne veut pas avoir de l'aide? Mais sommes-nous aussi bien disposés de recevoir l'insistance sur quelque chose? Sommes-nous bien disposés d'être suppliés, implorés de faire quelque chose? Ça, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Mais ça fait partie d'une église qui est en ordre, qui est en train d'être réformée et accomplie. Il y a aussi une deuxième activité. Il faut être capable d'exhorter, mais aussi capable de réfuter. Il faut réfuter les contradicteurs. Par ces mots, Paul soulève une deuxième responsabilité pour les anciens. Non seulement doivent-ils guider l'Église, ils doivent aussi garder l'Église. Et le contexte de la lettre fait apparaître clairement que certains hommes avaient enseigné une fausse doctrine. Paul dit franchement qu'un ancien est par définition un homme qui a la capacité d'exposer la fausseté de leur doctrine. Sommes-nous une Église qui accepte que parfois les anciens doivent exposer la fausse doctrine même publiquement? C'est difficile. Personne n'aime exposer les autres et leur doctrine, mais souvent il faut le faire. Comment les anciens peuvent-ils guider et garder l'Église? Paul nous dit au verset 9, ils sont attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. Quel est le fondement de ce que les anciens font? C'est quoi? C'est la vraie parole. Il faut être attaché à la vraie parole. Cela veut dire quoi? Donc, on a le même passage. Ça, c'est bizarre, hein? Bon, je voulais vous montrer la structure, mais dans Matthieu chapitre 6, il dit « Nul ne peut servir de maître ». C'est assez connu, ce passage. « Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, méprisera à l'autre. » Donc, d'être attaché à quelqu'un, c'est d'aimer quelqu'un. Donc, ça, c'est l'idée là-bas. Donc, ils doivent être attachés à la Bible. Ils doivent aimer la Bible. Ça, c'est ce qu'ils doivent être. Et donc, il est important de noter qu'il n'est pas permis aux anciens de réinterpréter la vraie parole comme ils veulent. Ils sont obligés d'être attachés à la vraie parole telle qu'elle était enseignée. Cela doit signifier l'enseignement que les églises ont reçu avant le départ de Paul. Et c'est pourquoi on dit, mes professeurs, ils m'ont dit, ce n'est pas une bonne chose de trouver très souvent les nouvelles choses dans la Bible. Si pendant 2000, l'Église n'a jamais trouvé une signification dans la Bible, il faut me méfier, d'accord? On est des conservateurs par nature. On conserve l'enseignement de Paul. Et ensuite, quelle est leur puissance et efficacité? D'accord? Un ancien, comment savoir si un ancien est efficace? doit-il avoir une grande présence, personnalité? Il doit venir de l'une des grandes écoles. Non, la Bible dit quoi? Il doit être attaché à la vraie parole afin que. Et ça fait un lien logique entre son attachement à la vraie parole et sa capacité. D'accord? Sa capacité d'encourager, sa capacité de réfuter n'est pas liée à lui-même, c'est lié à la parole. Donc sa puissance vient du fait qu'il est vraiment attaché à la parole de Dieu. Donc, comment conclure cette partie de notre louange? Moi, j'ai deux requêtes de prière en général maintenant. Je pense que l'application de ce passage pour nous, c'est la prière. D'accord? Et d'abord, il faut prier pour vos anciens. Vous en avez deux. Hein? Moi et Lala. Et vous êtes obligés de prier pour nous, parce que nous sommes des êtres humains, des pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits, mieux que les autres. Hein? Donc, comment pouvez-vous prier? Priez que nous soyons attachés à la vraie parole. D'accord? Vous ne voulez pas avoir deux hommes qui vous partagent nos propres pensées. Ouais, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez le trouver dans toutes les magasins, les bibliothèques, sur la radio, les personnes qui partagent leurs propres pensées. Vous voulez avoir des personnes qui sont attachées aux pensées de Dieu. Donc, priez pour nous, que nous soyons attachés à la vraie parole. C'est-à-dire que nous avons un amour profond pour la parole. Que nous aimions la parole de Dieu, la Bible. Et prions que notre attention ne soit pas détournée de la parole de Dieu. Et j'ai mis deux passages ici. En Actes 6, il y avait un besoin matériel qui était vraiment important. Les personnes n'avaient pas les choses à manger. Mais qu'est-ce qu'a dit Paul? Pierre et les disciples. Il a dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, cela ne veut pas dire que je ne peux pas servir l'Église dans les choses matérielles, ni là. On peut mettre les tables dans la salle, on peut ranger les chaises. Mais on doit garder toujours contre d'être détourné de notre mission principale. C'est de connaître la parole de Dieu et d'appliquer la parole de Dieu à la vie de l'Église. Il y avait un autre passage en 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, un service physique, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Il divise les dons de l'esprit en deux parties. Les dons de ceux qui parlent, les dons de ceux qui servent physiquement. Donc, on peut voir qu'il y a certains dons. J'ai pas tous les dons. D'accord? Et ça ne prend pas beaucoup de temps pour voir que je suis pas le meilleur organisateur, hein. J'ai pas tous les dons, là non plus, donc on peut pas faire tout. Mais la Bible dit que Dieu donne à l'Église tous les dons qui sont nécessaires. Ça, c'est une prière. Prions que nous soyons attachés à la vraie parole. Et prions que nous soyons capables d'exhorter. Il faut quoi? Il faut la sagesse pour savoir quel aspect de l'exhortation est utile et nécessaire. C'est la consolation ou l'insistance? c'est l'aide ou c'est la supplication. Prions aussi qu'on a de l'audace pour faire l'exhortation n'importe quoi, la conséquence. Nous sommes humains. Si j'insiste sur quelque chose, que cette personne, elle va se fâcher contre moi. Bon, moi, je n'ai pas la liberté de dire ce genre de choses. Priez pour moi, priez pour Lala, qu'on soit fidèle. Et aussi qu'on soit capable de réfuter. Il faut avoir la sagesse pour identifier ce qui n'est pas juste, mais aussi la sagesse et l'amour pour exposer ce qui n'est pas juste. Donc, priez pour nous. Mais aussi, deuxième requête, priez pour vous-même et pour nous en tant qu'une église. Que nous recevions humblement le ministère d'exhortation. Il faut être humblement ouvert au ministère d'exhortation. C'est pas facile toujours. Moi, je le sais personnellement, et je pense que vous le savez aussi. Il faut que Dieu agisse dans nos vies. Et deuxièmement, humblement ouvert au ministère de réfutation. Si on arrive à une interprétation qui n'est pas juste, une compréhension qui n'est pas juste, on doit être ouvert à être corrigé. Accepter la correction. Ce sont deux applications de ce passage pour nous. Et notre louange, c'est d'écouter, mais c'est aussi de quoi? De pratiquer. D'accord? C'est pourquoi j'ai pris le temps.